Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Clémence Olivier pour son zapping du lendemain spécial Nouveau Départ et Bertrand Chamerois pour son écran de veille spécial Priorité au direct. Notre invité, c'est le directeur du pôle culture de France Télévisions et aussi écrivain, c'est Michel Field. Son nouveau livre vient de sortir, il s'appelle Paris et moi. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, Meryl Streep en romancière, Marjorie Adelson va tout vous raconter. Et puis un groupe de rock américain, c'est Emily Mazoyer qui va nous le faire découvrir. Bonjour Clémence Olivier.
Bonjour Philippe, bonjour
je
à tous.
Je précise que pour la semaine, vous assurez l'intérim d'Eva Rock qui est en vacances. Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe, bonjour Clémence.
Vous assurez l'intérim de Bertrand Chamerois, c'est oui. Votre écran de veille. Et ce matin, vous teniez Bertrand à rendre un hommage.
Oui, hommage à ceux qui ne reculent jamais devant l'immersion, même la plus périlleuse, ceux qui chaque jour innovent un peu plus. Je parle bien sûr de mes amis de BFM Paris. En septembre dernier, je vous en avais parlé, ils avaient lancé le point route à vélo, l'état du trafic sur les pistes cyclables en direct, une première. Hier matin, nouvelle innovation, nouveau défi, cette fois depuis la gare Saint-Lazare.
Bonjour Tanguy, se faire dépister avant de prendre son train ou son métro, c'est le principe, mais ce qui est pratique et nouveau ici, c'est que ce box propose des tests salivaires.
Ah bah c'est pratique ça, les tests salivaires avant de prendre le train. Eh bien merci pour l'info. Et hein, comment ? Ah, on me dit que le duplex n'est pas terminé.
C'est quand même l'option qu'on a choisie ce matin. Donc au préalable, j'ai rempli ma petite fiche. Alors, on y va Ghislaine ? Vous êtes infirmière ?
Comment ça, on y va Ghislaine ? On va quand même pas... Non mais dites pas qu'on va pas assister au test salivaire en live.
Donc c'est un test PCR que vous allez passer. Donc vous allez cracher dans le petit pot, donc jusqu'à 10 millilitres.
Non mais c'est gentil, vraiment, vous n'êtes pas obligé. Déjà les autotests avec tous les journalistes qui se fourrent le pif à l'antenne, c'était pas hyper sexy. Donc si on peut éviter les 10 millilitres de Glavius à l'heure du petit-déj, ce serait mieux pour tout le monde. J'ai une pensée émue pour cette journaliste à qui le matin en conférence de rédaction on a dit « C'est toi qui vas aller cracher dans le petit bocal, gare Saint-Lazare en direct. » Oh non ! Alors étant donné que vous n'avez pas l'image, on a rajouté un petit ding à chaque crachat, histoire que vous figuriez bien la scène à laquelle j'ai assisté en mangeant mes tartines.
Donc vous allez cracher jusqu'à 10 millilitres et une fois que vous allez finir de cracher, je vais envoyer le pot au labo. Donc au labo, c'est là-bas qu'ils vont analyser.
Alors il faut quand même beaucoup de salive, moi j'ai un peu de mal ce matin, c'est pas très glamour.
Ah oui, je confirme, et c'est pas fini.
Allez-y. Oui, allez-y. Encore.
Il faut beaucoup de salive. Voilà. Ça ira, la Ghislaine, quand même, à peu près. Ça ira.
Oui, ça ira. C'était interminable. Voilà. Alors, la séquence aurait pu s'arrêter là. On était pas mal, hein, déjà. Mais non, au retour plateau, le journaliste s'est dit ce qu'on vient de vivre là, ça vaut bien un teasing hollywoodien.
Il faut quand même beaucoup cracher, hein, il faut le dire. Donc, désolé, Tanguy, ce matin. Mais en tout cas, j'attends les résultats. Voilà.
Alors, nous aussi, Élodie, on attend les résultats. Demain, dès 6h30, en direct sur BFM Paris, vous aurez les résultats d'Élodie Messager, grand reporter. Bonjour Paris, merci beaucoup.
Alors, la grand reporter est-elle, oui ou non, positive au Covid ? Après 24 heures d'un suspense insoutenable, nous savons non, Élodie Messager n'a pas le Covid. Merci BFM Paris de nous faire vivre toutes ces émotions et bravo à la journaliste pour son dévouement.
Merci magnifique. Bertrand Chamerois. Je me tourne vers vous Clémence Olivier, c'est l'heure de votre zapping du lendemain. On va se projeter en jetant un coup d'œil au programme télé du soir, le thème du jour.
Oui, c'est repartir de zéro. Comme Vincent Picard, le héros de L'école de la vie, la nouvelle série de France 2. C'est un prof d'histoire géo dans un lycée, un homme apprécié de ses élèves, futur papa, qui va être confronté à un drame personnel. Alors pour faire face et repartir de zéro donc, il se plonge corps et âme dans le boulot et s'intéresse de plus en plus à la vie de ses élèves, comme Lucas, handicapé après un accident.
Ça a l'air d'être compliqué avec ton père en ce moment.
Ah ouais, c'est compliqué. J'existe même plus pour lui, il me regarde même plus en face depuis mon accident. Pour lui, je suis qu'un pauvre truc fragile, là, alors que j'ai plus de couilles que n'importe qui ici.
Après peut-être qu'il culpabilise, peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il sait pas comment réagir.
Peur de quoi ? Hein ? Peur de quoi ?
Dans cet épisode, il est question de dépression, mais la série aborde beaucoup de sujets de société, comme le consentement, la précarité. Elle est assez classique sur la forme, mais touchante, déjà parce qu'elle rend hommage aux enseignants. Et puis les acteurs sont tous très justes, à commencer par Guillaume Labbé, qui joue le prof d'histoire. On l'a entendu tout à l'heure dans le journal des médias. Sur Arte, ce n'est pas un homme, mais une population tout entière qui repart de zéro dans un docu-fiction très original. Le pitch, une catastrophe nucléaire se produit à la centrale de Cattenom, en France, à 35 km du Luxembourg. Et c'est tout Jean-Paul Duché qui est en alerte.
Si c'est vrai ce qu'ils ont dit à la radio, on a affaire à un accident de niveau 7.
Niveau 7, ça veut dire quoi, niveau 7? Pour moi, ça veut rien dire du tout.
La centrale est en train de cracher de la radioactivité sur tout le pays. Il faut partir immédiatement et... Ça veut dire qu'on ne reviendra plus. Ça veut dire qu'il faut prendre tout ce qu'on ne peut pas remplacer, les choses qu'on ne pourra pas remplacer.
Les choses qu'on ne pourra pas remplacer?
C'est ça, l'irremplaçable!
Tout ce qui est chez nous est irremplaçable!
On est proche du film Catastrophe, ouais. Avec peu de moyens, mais du suspense. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre les séquences de fiction, des experts nous expliquent ce qui pourrait vraiment se passer sur un plan économique et politique si un tel accident nucléaire survient et raye le pays de la carte, comme le craint vraiment le Luxembourg. Bref, c'est une façon assez étonnante de parler des dangers du nucléaire et d'aborder un vrai sujet de géopolitique. Enfin, plus léger sur M6, ce sont les candidats de Top Chef qui partent de zéro. Ils ont 48 heures pour monter un restaurant, concevoir son menu.
Ah ouais, dis donc.
Et c'est la nouveauté, le décliner en formule à emporter. Mais faut-il encore avoir la bonne idée?
J'ai pensé à faire un truc en mode... mais ça, on pourra pas le faire, mais genre en mode de grosse pièce.
Comment se passe qu'on pourra faire comme ça?
Non, mais genre barbecue, tu vois.
Barbecue?
Barbecue, cheminée, cuisson longue, tout ça. Mais compliqué aussi.
Avec Pierre, il y a 4000 idées à la minute. Ça fuse à tout va.
Sinon, j'avais pensé faire un genre de végétarien.
Ça me parle pas.
Bon, ça te parle pas.
Bon, je vous rassure, les candidats, voilà, ils auront quand même réussi à se mettre d'accord. Mais si possible, ils sauront aussi vous surprendre et vous donner encore plus envie de retourner au restaurant. Pour récapituler, l'école de la vie, c'est à 21h05 sur France 2. Sur Arte, en zéro, c'est à 23h20. Et rendez-vous à 21h05 sur M6 pour Top Chef.
Merci beaucoup Clémence Olivier. Merci Bertrand Chamorand. On vous retrouve également tous les matins à 7h40, votre chronique La Touche Âme avec Mathieu Bellière. Ce matin, vous avez chanté du Sheila. Vous avez vu, Sheila, elle a tweeté.
Mais j'ai vu, c'est
adorable. Attention, elle a dit... Quel talent, Bertrand Chamerois. Dans un instant, on sera avec Michel Phil, mais d'abord musique avec le Kid de Minneapolis. 5 ans après sa disparition, façon journalistique de dire qu'on va entendre un titre de Prince.
Europe 1, Culture Média.
When Doves Cry, c'était Prince à l'occasion des 5 ans de sa disparition. Vous pourrez écouter les titres les plus emblématiques programmés toute la journée sur Europe 1. Dans un instant, on serait avec le patron du pôle culture de France Télévisions et aussi écrivain. C'est Michel Field. Il va nous parler de son nouveau livre, Paris et moi, que des mois en perspective. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Michel Field.
Bonjour Philippe.
Vous êtes directeur de la culture et du spectacle vivant à France Télévisions, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que vous occupez du Grand Échiquier, de la Grande Librairie, mais également de la plateforme Culture Box, qui est devenue une chaîne de la TNT, on va en parler parce qu'il y a du nouveau. Mais votre actualité, c'est un livre, Paris et moi, aux éditions Mialet-Barreau. Et moi, du mot émotion, comme quelqu'un qui serait ému. C'est quoi l'idée de ce livre? C'est une balade dans Paris, dans vos souvenirs? Normalement, pardon de ce compliment, c'est un livre qu'on écrit au soir de sa vie, un peu à la Jean d'Ormesson.
C'est vrai qu'il y a un petit côté testamentaire.
Ouais.
Non, c'est l'idée juste d'un homme qui, se baladant dans sa ville, voit redéfiler des grands moments de sa vie. Alors, c'est un peu autobiographique, mais pas tant que ça, parce que le souhait que j'ai, c'est que je mets mes souvenirs par rapport au lieu, mais j'aimerais que le lecteur mette les siens. C'est-à-dire, c'est l'idée que les lieux déterminent beaucoup la mémoire et qu'on se souvient d'une rencontre, d'une rupture, d'un moment clé de décision de vie, beaucoup par le lieu où elle a eu lieu, comme le dit joliment la langue française.
Alors justement, rupture et décision, c'est 12 mois d'avril 2020 à mars 2021, mais également 12 mois comme un mois, comme le mois psychanalytique. Ça démarre, ce livre, avec l'incendie de Notre-Dame. Et vous commencez par ce débat. Est-ce qu'il faut reconstruire la flèche à l'identique ou aller de l'avant? Sachant qu'elle n'était pas authentique, je précise, elle a été refaite par Viollet-le-Duc. Et là, je vous cite. « Jusque dans les débats virulents sur la reconstruction de la cathédrale, j'entendais un écho à mon labeur. Qu'est-ce qu'être fidèle à soi? Reconstruire à l'identique ou risquer la modernité? Rester attaché au passé en le reproduisant? Ou alors se projeter dans un lendemain qui saura le passé, ce qui saura se passer de l'après-demain? » C'est une bonne question. Vous avez tranché?
Non, j'ai pas tranché, mais ça fait écho à tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur l'identité.
Bien sûr.
Qu'est-ce que c'est une identité? Est-ce que c'est un petit noyau d'ADN qu'on garde comme ça, presque inchangé du début à la fin? Ou est-ce que c'est une structure un peu ouverte qui accueille l'autre? C'est les débats sur les femmes, c'est les débats sur les races, etc.
Bien sûr.
Et Notre-Dame en offre un formidable exemple, parce que la flèche de Notre-Dame, beaucoup de gens croyaient que à la remettre à l'identique, on était fidèle à la cathédrale du Moyen-Âge.
Mais
non, on est juste dans un geste architectural du 19e. La ville permet ça, c'est-à-dire ouais, un rapport constant du passé et du présent.
Du 19e siècle, pas d'arrondissement, parce que comme vous faites le tour des arrondissements, sinon on n'a rien compris. Juste un mot en parlant d'identité. Vous dites que vous avez grandi à Paris, mais moi j'ai toujours cru que vous veniez du Sud. Je ne ferais pas l'affront de repasser votre accent non, du non. Sud de l'époque. Mais vous venez d'où?
Non, je viens d'un petit village du Midi qui s'appelle Saint-Saturnin.
Mais dans le livre, vous dites que vous avez passé votre enfance à Paris.
J'y ai passé, je suis né là-bas et j'y ai passé les toutes premières années de ma vie. Et puis très vite, ça a été une sorte d'aller-retour entre les deux. Et je suis parisien d'adoption, disons. Et peut-être cet écart me permet d'avoir sur la ville un regard juste un petit peu décalé qu'il faut.
Vous racontez votre existence dans Paris, vous faites des révélations dans ce livre. Vous dites avoir déménagé de très 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 nombreuses fois, publié une quinzaine de livres, ça je le savais, gagné beaucoup d'argent, je vous le souhaite. Et connu la dèche, vraiment, vous avez connu la dèche, Michel Field? Comment c'est possible quand on est professeur agrégé de philosophie de connaître la dèche?
Déjà quand on a démissionné de l'éducation nationale et qu'on s'est lancé dans les médias, il y a des moments très fastes et il y a des moments qui ne le sont pas du tout. Et puis je raconte aussi que j'ai passé une enfance de pauvre dans un quartier de riches, puisqu'on était, pour des raisons très romanesques, dans le 16e arrondissement, et que mon père était prolo à la chaîne chez Féraudeau à Saint-Ouen. Et d'ailleurs, je raconte dans ce livre ce qu'étaient les balades de mon père quand il m'emmenait à ses réunions syndicales à l'aube et que je découvrais le monde du travail, qu'évidemment, dans le 16e, je n'apercevais pas tous les jours.
Il y a des choses extrêmement profondes, et puis parfois, il y a des choses plus,
légère.
Sautière, légère, au détour d'une page, d'une rue. On trouve par exemple cette définition de mots croisés signée Tristan Bernard. Alors attention, chez vous, réfléchissez bien. En cinq lettres, anarchiste d'Europe centrale. Cinq lettres, anarchiste d'Europe centrale. Michel Field, je vous laisse donner la réponse.
C'est amour.
Pourquoi? Réponse en musique. Voilà, l'amour enfant de bohème, donc Europe centrale, il n'y a jamais connu de loi, donc anarchiste.
Oui, mais ça, les mots croisés de Tristan Bernard, il y a aussi, en huit lettres, vide les baignoires pour remplir les lavabos.
Ah, je peux pas la trouver, allez-y.
Et c'est entr'acte.
Waouh, magnifique.
C'est beau, hein?
C'est très, très beau. On va parler de culture tout à l'heure. Je vous cite, vous écrivez ce très beau passage, on est page 91, « Le sentiment paradoxal de n'avoir pas réussi ma vie, tout en aimant celle que j'avais vécue, de n'avoir pas fait les bons choix, sans pour autant parvenir à en regretter aucun, d'avoir couru après tant de chimères, mais Dieu qu'elles étaient séduisantes, et d'être resté à la surface des choses, sans pour autant avoir la moindre idée de ce qu'eût été leur supposée profondeur. » J'ai rien à dire à ça. Je voulais ajouter quelque chose.
Non, je pense que c'est des interrogations qu'on se pose en effet... peut-être plus âgé qu'avant, sur les choix qu'on a faits. Et la ville offre ça, c'est-à-dire qu'on est en plein carrefour tout le temps. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pris la route de gauche plutôt que la route droite, si je m'étais retourné au lieu d'avancer? Voilà, c'est des questions qui, je crois, permettent aussi de donner à la ville une densité qui fait que tout lecteur pourra se retrouver dans ces questionnements-là. Après, chacun aura les Bien réponses par rapport aux balades que je lui propose dans Paris.
Et qu'on soit parisien ou non parisien, c'est absolument passionnant. Il y a des endroits inattendus. Autre chose inattendue, votre portrait, Hélène Manarino, Culture Média continue. On est avec Michel Field, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Paris et moi, c'est le titre du nouveau livre de Michel Field. On apprend plein de choses sur lui-même, mais peut-être pas tout. Heureusement qu'il reste encore des choses à découvrir. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour.
C'est
à
l'instant
tous.
Du portrait inattendu. On vous écoute Hélène.
Bonjour Michel Field.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Mikoulou Choufouillou, votre surnom. Quand vous étiez petit, leader, chef de clan, un jour, vous avez réveillé tous vos proches à l'aube pour grimper le Mont Ventoux et admirer le lever du soleil. Tout le monde vous a suivi avec duvet, café et saucisson. Vous vouliez partager ce moment suspendu avec les gens que vous aimez. Et vous faites la même chose pour admirer feux d'artifice ou étoiles filantes. Alors ce matin, je vous propose de prendre un peu de hauteur, d'arrêter un peu le temps pour contempler vos souvenirs. Partons en haut de votre montagne, le Mont Michel Field. Et on va grimper. Commençons par votre enfance, ces étés à Saint-Saturnin où vous êtes né, et ces plongeons que vous enchaîniez à la piscine municipale et ces mille « Maman, regarde !» avant de vous lancer. D'ailleurs, vos enfants ont reproduit la même chose quelques années plus tard. Votre enfance, surtout marquée par des balades avec votre grand-mère comédienne qui, dès qu'elle recevait sa retraite annuelle, aimait vous emmener acheter des pâtisseries. Elle dépensait tout en une seule fois, un moment entre vous, magique et surtout inoubliable. Vous étiez assez gourmand d'ailleurs. Un jour, petit, vous demandez l'heure à votre maman et elle vous répond « Il est 16h30 » et vous lui rétorquez « Tu te rends compte que ça fait une demi-heure que j'ai faim ?» Michel Field, petit garçon attentionné avec son petit caractère, très bavard, vous aimiez passer des après-midi sur le tracteur d'un ami de vos parents, avec cet ami à vos côtés, sauf que vous n'arrêtiez pas de parler. Il vous a donc surnommé cachet d'aspirine.
Déjà, vous étiez déjà un peu bavard alors.
Et pourtant c'est quelqu'un du midi, hein, ouais. Ils ont la faconde.
Une ascension dans vos souvenirs où l'on croise évidemment votre grande sensibilité, vos premières peurs, comme ce jour où vous êtes dans votre chambre à l'étage. Votre maman vous entend hurler, elle monte très paniquée et vous étiez en larmes car une fourmi se trouvait sur votre lit. Et oui, enfant débrouillard, à l'âge de 4 ans, vous êtes allé chercher un jouet dans votre chambre, sur votre lit, et vous vous êtes tout simplement endormi en le prenant dans votre main, avec les pieds sur le sol.
Mais comment elle sait tout ça, elle ?
Oh là là, et ça remplace la psychanalyse. Hein.
Ah ouais, grave.
Hein, la peur de la fourmi, dis donc.
Ça doit dire des choses. Oui.
C'est un grand transfert, là.
Prenons le premier virage de notre randonnée. Nous tombons sur, finalement, votre première rencontre avec ce qui est devenu l'une de vos priorités, la culture, grâce à votre frère qui faisait du théâtre. Vous l'admiriez énormément, vous le regardiez répéter ses pièces dans le couloir de l'appartement. Et vous vouliez faire comme lui. Alors vous vous inventiez une cape pour vous lancer dans les trois mousquetaires. Et à la fin, il y avait votre salut et vous aviez l'habitude de crier avec Michel Field dans tous les rôles.
Alors, la modestie déjà.
Continuons notre chemin, le sommet n'est pas loin. Nous arrivons finalement au paysage de votre adolescence, de jeune adulte, de passionné. Au lycée, vous étiez souvent puni à cause de votre passion pour votre mégaphone. Vous enchaîniez les manifs. Mais Michel Field, votre destin, vous le connaissiez. Votre bonne étoile, elle était bien là. Elle ne filait pas. Vous étiez prêt à tout. Vous avez passé des nuits à attendre devant l'Opéra Garnier avec votre thermos, couverture. On attendait l'ouverture des guichets pour acheter les meilleures places.
Ouais, pour Pavarotti qui finalement a déclaré forfait, donc c'était une nuit blanche d'attente de location pour rien.
Michel Field, faire profiter de votre bonheur aux autres, c'est une chose aussi qui vous a toujours emmené sur le bon chemin avec votre premier salaire de prof. Vous avez fait des cadeaux à tout le monde, surtout à votre maman. Vous aviez l'habitude de payer en chèque et de tout dépenser. Et pour éviter d'être interdit bancaire, votre maman est retournée chez les commerçants seuls pour récupérer vos chèques et payer elle-même vos cadeaux.
Oh, c'est trop beau.
Alors, Michel Field, nous arrivons en haut. Contemplons votre vie aujourd'hui marquée par vos plus belles étoiles, vos enfants à qui vous racontez l'histoire de Pu des Pieds. La princesse Aurore est enlevée par l'horrible Pu des Pieds, mais elle est toujours sauvée par le prince Philippe. Et vous adaptez l'histoire en fonction de la journée de vos enfants. Jamais sans votre tabac, votre téléphone, vous aimez écouter Gilberto Gil, Claude François depuis l'enfance, ou Louis Iglesias. Vous aimez visiter les villes que vous ne connaissez pas trop, que le dimanche matin, vous aimez passer du temps dans les magasins foire fouille, vous aimez les meringues, les marrons glacés. Et oui, vous laissez systématiquement vos clés sur votre scooter. Vous êtes capable de travailler partout, chez vous ou ailleurs. Peur devant un insecte jusqu'à la naissance de vos enfants. Peur aussi des scorpions.
Oh bah ça, c'est
là,
normal.
Ça va un petit peu mieux. Bah oui, mais voilà, pas tout le monde.
Enfin, ça peut tuer un scorpion. Hein. Tout le monde a peur de ça,
mais
normalement.
Mais il y a surtout la musique et la chanson qui vous transportent et vous donnent envie de vous envoler. C'est celle-ci.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va.
Mistral gagnant, évidemment, Renaud. Alors Michel Field, vous avez toujours pris de la hauteur pour garder les pieds sur terre. Passionné, vous avez placé l'essentiel, votre famille au centre de tout, ce qui vous permet de contempler votre vie en toute sérénité.
Eh bien, dis donc.
Merci beaucoup, Hélène Marino.
Très ému de ce portrait.
Réaction, Michel.
Je ne sais pas du tout où vous avez trouvé toutes ces anecdotes, mais elles sont toutes jolies. Je les valide. J'ai l'impression d'avoir une fille de plus, en fait, en plus de mes 4 enfants, elle qui accompagne ma vie depuis...
Incroyable.
C'est étonnant, vraiment.
Et je vous imagine pas écouter Claude François avec votre agrég.
Claude François, c'était mon premier spectacle. J'ai un 33 tours de Claude François dédicacé par lui,
oui, mais
de 64.
J'ai bien compris.
Concert de l'Olympia.
Mais en général, ça s'arrête là quand on passe à Kant et Schopenhauer.
Pas du tout. Et ce que j'adore, c'est que mes gosses, les derniers qui ont 10 et 11 ans, ils connaissent Claude par cœur.
Vous en avez combien d'enfants?
J'en ai 4. Avec
je dis
3,
ça parce qu'il
y a mamans beaucoup. Différentes.
Je sais. C'est dans ce livre et ils sont pas inattendus. Merci beaucoup. Hélène Manarino, à demain. Michel était très ému. L'émission continue à parler de musique avec un groupe qu'on va découvrir de la Nouvelle-Orléans. Et c'est Émilie Mazoyer qui va nous le faire découvrir. Une petite nouvelle ici dans Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Michel Field, il publie Paris et moi, c'est chez Mialet Barrault. Il raconte son Paris et c'est moi et ses émois. 12 mois, tous les arrondissements sont passés. On reconnaît les rues, on reconnaît les quartiers, on reconnaît les dates, on reconnaît les événements. Vous écrivez ceci depuis Charlie, donc depuis la tuerie de Charlie, depuis le Bataclan, le 11e me glace. Vous avez même dit « je ne pourrai plus y aller ». Pas de résilience chez vous, vous qui étiez prof de philo et qui enseignez à vos élèves à dépasser la mort. Vous frissonnez toujours quand vous passez devant le Bataclan.
Ça a pourri le rapport que j'ai au 11e arrondissement. D'abord parce que il se trouve que dans l'équipe de Charlie, j'avais quelques copains. Mais même au-delà, le fait de passer comme ça devant ces terrasses et d'avoir la mémoire diffuse de ce qui s'y est passé, voilà. Et c'est aussi ça, mon livre, c'est aussi... une ville à ses cicatrices, ses drames, ses capacités de résilience, exactement comme un individu. Et on se fait, on dialogue ensemble pour savoir là où tu te soignes et là où tu n'y arrives pas.
Et bien, j'attendais de vous que vous y arriviez.
Ben,
vous êtes retourné au Bataclan.
Ben, j'y suis allé une fois pour une captation. On faisait un enregistrement de Nino, justement. Je me suis forcé à y aller, mais j'étais extrêmement mal et j'étais extrêmement mal en sortant. Voilà, peut-être que le temps calmera ça, mais et Dieu sait que j'aimais cet arrondissement avant, parce que c'est vraiment un des arrondissements qui est symbolique de l'art de vivre parisien, les terrasses, le mélange social, etc. Bon, voilà, et ça m'intéressait de creuser ça honnêtement et d'en faire part au lecteur, parce que je pense que chaque Parisien a ce rapport-là au drame qu'a connu Paris, que ce soit l'explosion de la rue de Trévis dont je parle, que ce soit Notre-Dame ou que ce soit les attentats.
Je parlais de ça aussi à dessein, car on va parler de musique avec vous. Une petite nouvelle, bonjour Émilie Mazoyer.
Bonjour.
Vous êtes à la fois avec nous maintenant et vous serez ce soir à l'antenne. Et là, vous allez nous faire découvrir un groupe américain, le groupe américain parfait, m'avez-vous dit, pour se déconfiner les oreilles, Silver Synthétique.
Oui, exactement. Alors, je ne sais pas, hein, Philippe, Michel et toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ce matin, ce que vous avez prévu pour le monde d'après. Mais si votre plan, c'est danser complètement nu autour d'un feu de camp en fumant un gros pétard, bah déjà, appelez-moi, parce que vous avez l'air très cool. Et deuxièmement, j'ai trouvé la bande originale parfaite. C'est ce groupe américain qui vient de sortir son premier album, Silver Synthétique, donc, qui propose ce genre de merveille.
Je connais Émilie, vous adorez faire des surprises. Vous êtes, on a du mal à croire que ça vient de sortir.
Mais oui.
Vous êtes sûr que ça date pas de 69, votre groupe?
Alors effectivement, on
moi,
est
ça
dans...
me rajeunit, hein, personnellement. Ouais.
C'est vrai,
moi
aussi, ouais. On est super bien.
Il
on
était
est...
déjà en train d'allumer un feu de bois.
C'est retour vers le futur.
Il y a ce style rock hippie, alors San Francisco fin des années 60 ou un peu mieux peigné, on va dire Los Angeles, Laurel Canyon dans les années 70. Et pourtant, nous sommes bien donc dans le sud des États-Unis, en Louisiane, en 2021, avec d'anciens punks. Ça s'entend pas, hein.
Non.
Mais avant de lancer Silver Synthétique, il y a 3 ans, ces musiciens avaient eu pas mal de succès avec des chansons très courtes, très rapides, très agressives. Et là, bah, vu que le monde est déjà pas mal rapide et agressif, ils ont eu envie de se détendre. Alors ils ont monté un studio dans le salon d'un appartement dans le vieux quartier français de la Nouvelle-Orléans. Et ils ont enregistré ces 8 chansons. Oui, parce qu'attention, c'est des hippies, donc on fait un album, mais 8 chansons. On ne va pas non plus se fouler le petit doigt. 8 chansons très simples. Pas d'ordi, juste la basse, la batterie, le piano, les voix en harmonie et les solos de guitare.
Même le solo, je me marre, même le solo, il est d'époque avec 8 notes, maxi.
Mais oui, c'est ça.
Alors, attends, juste un mot, c'est tellement pas commercial, tellement pas à la mode en ce moment, que ce soit en France, que ce soit aux USA. Comment ils ont fait pour trouver une maison de disques?
Alors, très bonne question. Effectivement, aux États-Unis, en ce moment, c'est le hip-hop en haut des charts, ou alors il faut être country, et là, on a son public à soi qui ne bouge pas. Donc, les groupes comme ça, en fait, ils ont un sauveur, qui est un petit peu le sauveur du rock'n'roll, et qui est l'auteur du dernier grand tube rock international au milieu des années 2000. Ce monsieur, c'est Jack White, des White Stripes. Son tube Seven Nation Army, qui est repris par tous les supporters. Il a gagné des montagnes d'argent avec cette chanson de Jack White. Et en fait, il a tout réinvesti dans son label qui s'appelle Third Man Records, qui est basé donc, dans le sud des États-Unis, à Nashville. Il a même une usine de vinyle. Il fabrique lui-même des vinyles. Et donc, il lance des jeunes groupes. C'est un génie, ce Jack White, un sauveur du rock. Donc, le label s'appelle Third Man Records. Et c'est grâce à lui, à sa folie et aux millions gagnés avec Seven Nation Army, qu'on peut entendre aujourd'hui des choses comme Silver Synthétique. Puis ça fait faire un autre truc génial, je sais pas si ça vous manque, mais dans les chansons aujourd'hui, il n'y a plus de break.
Ouais,
vous savez, c'est au moment où il se passe un truc dans la chanson et puis ça s'arrête et ça repart. C'est un vrai délice quand on aime le rock. Il y en a plein dans l'album de Silver Synthétique.
Alors, Silver Synthétique sort son premier album. On le trouve partout ou pas du tout? Ou là encore, c'est compliqué?
C'est pas compliqué. Il est sur les sites de streaming. Après, si vous voulez aider la cause, s'il vous plaît, commandez-le à votre disquaire ou sur le site de Third Man Records. Silver Synthétique, premier album. Il porte le nom du groupe.
Ouais. C'est génial. C'est ça que j'aime dans la musique. C'est le côté cyclique. C'est vraiment un son de pré-70.
Ouais.
Et mon livre sur Paris, c'est pareil. Regardez, on enlève le tramway dans les années 30, on va le remettre.
Ouais.
On creuse le périphérique, on le ferme. On se félicite de la voie sur berge, on la piétonise. Il y a quelque chose d'un cycle comme ça, d'un éternel retour. Et quand on aime la musique, c'est très drôle de voir qu'à 40 ou 50 ans, c'est un son pré-Woodstock.
Bien sûr. Et ça va même en encore plus loin parce qu'on dit merci à Émilie Mazoyer pour la découverte et on la retrouve ce soir dans son émission musique de 20h à 22h.
C'est un
cycle. Merci beaucoup. On écoute Silver Synthétique grâce à vous, Émilie Mazoyer. C'est le titre Chasm Killer.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Je souris de ce solo old school, elle avait raison Émilie Mazoyer. Silver Synthétique, c'était Chasm Killer sur Europe 1. Silver Synthétique, c'est le nom du groupe. Dans un instant, notre deuxième indispensable, une sélection de films à voir ou à revoir en VOD. On sera avec Marjorie Adelson et évidemment Michel Field.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Paris et moi, c'est Michel Phil qui signe ce livre. C'est une promenade dans Paris et dans ses souvenirs. Il est beaucoup, beaucoup question de cinéma au sens propre du terme, puisque les salles de cinéma... Bonjour Marjorie Adelson.
Bonjour Philippe.
Vous nous parlez d'un film inédit, on parlait de cinéma avec vous, mais qui vient de sortir non pas en salle, évidemment, cause confinement, mais en DVD. Ce film s'appelle The Nightingale.
Oui, c'est un très beau film, mais très violent. Il avait eu le prix du jury à la Mostra de Venise. Alors, on est en 1825, en Australie. À l'époque, l'île est colonisée par les Anglais. Ils y envoient notamment des prisonniers irlandais. Parmi eux, Claire, elle vit en sursis avec son bébé et son mari dans une cabane au milieu de la jungle, jusqu'au jour où un officier britannique débarque chez elle et tue toute sa famille. Attention, c'est une scène très difficile à regarder. Claire n'a alors plus qu'une idée en tête, retrouver cet officier et se venger. C'est Billy, un aborigène, qui va l'accompagner à travers la jungle, mais Claire le considère comme un animal.
C'est mon noir !
Quoi ? Comment ça ?
C'est mon guide, espèce d'idiot !
Vous avez perdu la tête à voyager seul avec ça. Vous ne pouvez pas voyager seul. C'est la guerre partout, tout autour.
Voilà, wow. C'est une dure époque. Je ne suis pas du tout cliente de ce genre de film qu'on appelle les revenge movies, hein, film de vengeance en français. Mais là, j'ai été scotchée tout le long et malgré la violence, c'est un film qui est dérangeant mais captivant car Claire, elle ressemble à tout le monde, mais surtout pas à une guerrière. Elle est en robe d'époque, elle ne sait pas tirer au fusil, elle doit même gérer ses montées de lait en plein milieu de la jungle. Voilà, donc c'est pas une Lara Croft, mais on comprend vraiment sa colère viscérale et on est avec elle dans sa quête.
On rappelle que ça se passe en 1825 en Australie. Il y a aussi tout l'aspect historique.
Oui, et la réalisatrice Jennifer Kent n'a pas peur de montrer ce qui fâche de manière frontale, notamment l'extermination des aborigènes par les Anglais dès leur arrivée en Australie.
Ce patron que tu suis, c'est le pire de tous. Il m'a forcé à le guider vers mes frères noirs et il a tué mes frères noirs. Voilà pourquoi je veux plus travailler pour un foutu blanc. Je vais aller dans le nord. Je vais retrouver ma mère, mes tantes, retourner chez moi, dans mon pays, pour que vous puissiez plus me faire de mal.
Je t'ai rien fait, moi. J'ai pas touché à ta famille.
Tu es anglaise.
Je suis pas anglaise. Je suis irlandaise. Je déteste les Anglais.
Voilà, donc deux individus finalement unis par la colère et l'humiliation, le tout porté par une magnifique mise en scène. On est dans une Australie à vif, très loin des clichés idylliques. C'est un film puissant à voir en VOD, The Nightingale.
Et puis votre deuxième conseil VOD, c'est La Grande Traversée. C'est un film inédit qui est disponible sur MyCanal avec Meryl Streep dans le rôle principal, excusez du peu.
Oui, c'est le tout nouveau film de Steven Soderbergh à qui l'on doit notamment Ocean's Eleven ou encore Erin Brockovich. Meryl Streep campe Alice Hugh, une écrivaine américaine très célèbre, en panne d'inspiration. Elle doit recevoir un prix en Angleterre, mais pas question de prendre l'avion. Alice embarque donc à bord d'un paquebot de luxe et pour l'occasion, elle invite deux copines de fac qu'elle n'a pas revues depuis 30 ans. Mais les retrouvailles ne sont pas simples, car entre-temps, Alice est devenue très snob.
Oh, mais je crois bien que c'est lui.
Qui ?
Calvin Krantz ! C'est un immense écrivain de romans policiers. Vous en avez lu certains ?
Je les ai tous lus. Tous pour ma part.
Absolument tous. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment on peut, comment vous pouvez les lire. Ce genre de prose me fait penser à du polystyrène. Ça repose sur une trame, oui, mais ces trames sont si simplistes.
Voilà, donc la force du film, c'est vraiment Meryl Streep, grâce à une interprétation retenue. Elle incarne à merveille cette écrivaine un peu diva, mais qui cache quelques secrets. De l'autre côté, on a les copines aventurières comme Roberta, qui aimerait bien trouver un homme riche.
Je désespère d'avoir de l'argent. Et je ne suis pas en mesure de connaître un mec plein aux as. Moi, j'ai tous ces vieux schnocks qui viennent à la boutique pour acheter un string qu'ils vont offrir à leur copine ado, alors que moi, je suis de la vieille viande toute pourrie qui ne présente pour eux aucun intérêt.
Dis donc.
Alors, c'est pas un grand Soderbergh, hein, mais c'est un film plein d'énergie grâce au trio d'actrices, je vous le disais, mais aussi à l'intrigue riche en surprises. Il y a par exemple l'éditrice d'Alice qui a embarqué en secret pour l'espionner, ou cet homme qui sort tous les jours à la même heure de la cabine d'Alice. Ça donne une histoire rythmée avec une fin complètement inattendue, je vous en dis pas plus. La Grande Traversée est à voir sur MyCanal.
Vous allez le voir, Michel Field ?
Ah, sans doute, vraiment. Ouais.
Vous êtes grand cinéphile ?
Ben je suis très gourmand des séries et des films, et je suis de ceux qui sont tristes de ne plus pouvoir aller au cinéma, mais du coup, beaucoup de cinéma à la télévision.
Merci beaucoup Marjorie Adelson. Je précise pour les amoureux du cinéma que Paris Match organise avec Magnum Photo une vente de très belles photos en série limitée jusqu'au 2 mai prochain. Toutes les infos sur magnumphoto@. Dans un instant, Culture Média, suite et fin avec Michel Field. On y va, tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Michel Field qui publie Paris et moi chez Mialet Barreau, il raconte ses promenades, 12 mois et tous les arrondissements de Paris avec la grande histoire, la petite histoire. Très belle couverture, c'est un tableau très très célèbre de Caillebotte. C'est une place, je crois que c'est la place de l'Europe, mais j'en suis pas certain. D'une beauté immaculée avec ses pavés, ses très beaux immeubles haussmanniens. Et vous qui aimez la beauté, l'histoire, l'enracinement de l'une dans l'autre, j'aimerais bien avoir votre avis sur la polémique qui transcende un peu les clivages politiques en ce moment, le fameux hashtag Saccage Paris. Alors j'explique pour qui ne connaîtrait pas, c'est des centaines de milliers de photos sur les réseaux sociaux. L'on voit partout dans la ville de la saleté, des bandes en plastique jaune, des feux rouges qui tiennent avec du scotch, des panneaux tagués, des blocs de béton en dépit du bon sens rouge et blanc, même quand il n'y a pas de piste cyclable alentour, des bacs à fleurs transformés en poubelles, et ce qui a donné des articles de presse dans le monde entier, y compris parmi la presse progressiste. J'aimerais bien votre avis là-dessus, vous qui faites un livre sur Paris.
Je vais vous répondre d'une petite citation. Le piéton aborde néanmoins à chaque coin de rue un décrotteur. Il en est quitte pour quelques mouches assez bas. Par quel miracle a-t-il pu traverser la ville la plus sale du monde ?
Ça vient d'où ?
Sébastien Mercier, 1780. Oui, quand non. Je vous disais que la ville est Pénélope,
oui, mais entre-temps, il y a déjà Chirac.
Le
et...
débat sur la ville la plus sale, de la sur la dégradation. Je pense que, voilà, on est tous d'accord que Paris est un énorme chantier. Je pense aussi que dans ces chantiers, il y a des choses qui sont des investissements pour l'avenir. Parce qu'on parlait des enfants tout à l'heure. L'idée que la ville soit juste respirée. désirable pour nos enfants, c'est pas mal. Donc voilà, je suis toujours un peu méfiant
les feux rouges avec du scotch, pardon. Mais les feux rouges avec du scotch, c'est pas un investissement pour l'avenir.
Non, mais c'est pas. Non, mais je nie pas ça et je me marre en regardant le hashtag parce qu'il y a vraiment des photos incroyables. Bon, maintenant, tout se mélange. On parle de la saleté, on parle de l'architecture contemporaine, on fait un procès au maire de Paris. Enfin, tout ça me... Il y a des causes justes et des façons de le faire qui sont peut-être un peu bizarres.
Je m'adresse...
Je suis un peu mal à l'aise avec cette campagne.
Ça s'entend. Je m'adresse désormais au directeur de la culture et du spectacle vivant à France Télévisions que vous êtes également. On l'a appris en début de semaine. La chaîne éphémère Culture Box va continuer, au moins jusqu'en août, alors qu'elle devait s'arrêter à la fin du mois. C'est le ministère de la Culture qui a dit ça dans un communiqué. À partir du 1er mai, Culture Box ne sera plus disponible sur le canal 19 de la TNT, mais... sur le canal 14, suite France 4, et en soirée à partir de 20h. Question, la programmation va changer, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va continuer à voir l'émission de Raphaël Yem et Daphné Burki?
Ah ben c'est sûr que c'est l'emblème de Culture Box, donc on ne va évidemment pas arrêter. Pour des raisons budgétaires, on ne pourra peut-être pas continuer le direct tout l'été, donc on va travailler une politique astucieuse de rediffusion, parce qu'il y a vraiment des trésors dans cette quotidienne. Et puis, voilà, grâce au ministère, et puis grâce au CSA, on a pu opérer cette sorte de transfert sur France 4 avec... La mission éducative de France 4 qui va être prise par Oku, Lumni et tout le travail de France TV éduque dans la journée. Ouais. Et puis, alors, ce qui va se perdre, c'est les rediffusions des grandes émissions culturelles, des docs culturels qu'on faisait dans la journée. Ça tombe. Mais par contre, le spectacle vivant le soir, les concerts, le théâtre, l'opéra, le rock, le hip-hop, le stand-up, etc.
Tout ça va durer.
Tout ça va durer, et la quotidienne aussi.
Puisque vous parlez de mission Michel Field, un mot d'audience, il y a l'hebdomadaire Marianne qui a ouvert un débat. Les bons sentiments font-ils de bonnes audiences? Question qui avait été posée par Étienne Campion, journaliste qui a observé le flop de certaines émissions que certaines vous avez mises en place vous-même. Sur France 2, Rire contre le racisme, seulement 1 600 000 téléspectateurs. Le Grand Oral, concours d'éloquence, 1 million de téléspectateurs. Nous sommes la génération 2021, 600 000 téléspectateurs, 3% de part d'audience, c'est très simple. Et aussi les Césars, dans une moindre mesure, dont l'audience a été divisée par deux. Que lui répondez-vous?
Non, que c'est une vraie bonne question. Le Grand Oral et ce concours d'éloquence, c'est vraiment une émission à laquelle je tiens. Ça fait 3 numéros et c'est vrai qu'on dépasse pas bien le million de téléspectateurs. Alors, c'est toujours la même chose, moi qui m'occupe de culture, quand je fais 5 ou 600 000 téléspectateurs sur un opéra, évidemment qu'à l'aune de la télé, c'est une petite audience, à l'aune des amateurs d'opéra, c'est absolument énorme.
Là, en l'occurrence, son propos ne portait pas sur la culture, mais sur les bons sentiments. Non, rire contre le racisme, le concours d'éloquence, c'est très généreux, mais les résultats ne sont pas là.
Peut-être que ce ne sont pas les émissions qu'il faut flécher en première partie de soirée, peut-être qu'il faut partir de l'idée que ça touchera ou ça mobilisera un public peut-être plus réduit. Et après tout, aujourd'hui, en replay, peu importe qu'on soit en première ou deuxième partie de soirée, ce qui compte, c'est d'être vu.
Merci pour cette réponse. Exemple de langue de bois. Je vais y arriver. Merci beaucoup, Michel Field. Je rappelle, Paris et moi, c'est chez Mialet Barreau. Ça vient de sortir et on vous le recommande ici.
Merci beaucoup.
Demain à 9h pour Culture Média, on sera avec la Journée de la Terre sur Ushuaïa TV. Et on en parlera avec la journaliste Fanny Agostini et l'activiste Cyril Dion. Et puis en musique, plutôt en culture, le DJ et producteur Yuxek pour son nouveau projet d'électro expérimental et méditative. Ça devrait vous plaire, Michel Field, s'appelle Destino. Juste après le flash et Anne Romanoff, ça fait du bien. Je vous dis à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.